Décryptage, Marie Cazadebé.
C'est un défenseur infatigable de l'Amazonie, la terre de son peuple menacée de toutes parts. Le chef indien Raoni achève une nouvelle tournée en Europe. Il était aujourd'hui à Lyon, en France, hier au Vatican. Le pape François en a profité pour annoncer une assemblée nationale des évêques à l'automne consacrée à la plus grande réserve de biodiversité du monde et à ses habitants.
Probablement, les peuples autochtones amazoniens n'ont jamais été aussi menacés sur leur territoire qu'ils le sont aujourd'hui. L'Amazonie est une terre disputée et à plus d'un titre.
Disputée pour ses richesses que l'on a trop souvent tendance à considérer comme inépuisables malgré les alertes des experts sur le climat. Et le virage très à droite pris par de nombreux pays amazoniens semble faire passer la question environnementale très loin en arrière-plan. Alors quelle menace pèse sur l'Amazonie? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir François-Michel Le Tourneau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct de Tucson, en Arizona. Vous êtes géographe, vous êtes l'auteur de l'Amazonie aux éditions du CNRS. Et bonsoir Stéphane Rostin.
Bonsoir.
Vous travaillez aussi au CNRS, mais comme archéologue, et vous avez écrit Stupéfiante Amazonie aux éditions du Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Vous présentez d'ailleurs à partir d'aujourd'hui une exposition Précieux Poison d'Amazonie, c'est à voir jusqu'au 1er septembre à Clisson, dans l'ouest de la France. Alors il faut peut-être commencer par rappeler l'importance des richesses naturelles de l'Amazonie. Quelques données, François-Michel Le Tourneau, pour comprendre la spécificité de cette forêt unique au monde, par sa taille déjà.
Oui, par sa taille, c'est le plus grand massif forestier tropical du monde qui reste en un seul morceau. Et il est tout à fait exceptionnel. À peu près 2/3 des forêts tropicales du monde se trouvent en Amazonie, dans le grand bassin amazonien qui inclut la Guyane française et le Venezuela.
Alors, quelques mots peut-être de cette plus grande réserve de biodiversité au monde. On parle là d'énormément d'espèces d'animaux, mais aussi d'arbres.
Oui, d'arbres, comment dire, de plantes d'une manière générale, et encore plus d'insectes et de micro-organismes. En fait, l'Amazonie, c'est une bibliothèque immense dont on a perdu le catalogue. On sait absolument pas combien d'espèces on peut avoir. On a des vagues idées sur les espèces principales, comme vous disiez, les arbres ou les principaux animaux. Mais c'est surtout une énorme réserve de biodiversité qui est encore à explorer.
Alors, dès l'école, on apprend que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. À quel point son existence influence le climat? Et bien au-delà de l'Amérique latine.
Bon, alors il faut arrêter avec l'histoire du poumon. L'Amazonie n'est pas un poumon, en ce sens qu'elle ne crée pas d'oxygène pour le monde. Par contre, l'Amazonie, de par tous les végétaux qui s'y trouvent, c'est une immense réserve de carbone, et donc il vaut mieux que ce carbone reste stocké dans les arbres plutôt que libéré dans l'atmosphère pour créer encore plus d'effets de serre. Et en plus, l'Amazonie, de par son importance dans le cycle de l'eau, est probablement un des régulateurs du climat. Alors c'est sûr pour le continent sud-américain, et elle joue probablement un rôle au niveau mondial, mais ça c'est encore un petit peu mystérieux.
Alors dans une tribune, Stéphane Rostin, parue dans le journal Le Monde, vous parlez du mirage amazonien. Vous dites que la forêt est finalement victime de son immensité et de son dynamisme. Pour quelle raison?
Parce que les premiers conquérants qui sont arrivés en Amérique du Sud y ont vu une source inépuisable de ressources. Alors tout d'abord, ils ont cherché de l'or, mais il y a eu aussi les essences précieuses très vite, puis l'or noir. On avait l'impression que c'était un trésor sans fin. Et donc on a puisé sans penser à la régénération, parce qu'il existe une grande différence dans la gestion de la forêt par les Amérindiens qui l'utilisent, mais la gèrent et laissent toujours une place à la régénération de la forêt, alors que notre société industrielle y puise en laissant un peu la mort derrière elle.
Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui encore, on a la sensation que l'Amazonie ne peut pas disparaître, qu'elle va, comme vous le disiez, se régénérer malgré les avancées scientifiques notamment?
Je ne suis pas sûr que l'optimisme soit de mise aujourd'hui, surtout si on sait que près de 20% de cette forêt ont déjà été effacées ces 50 dernières années, et on évalue jusqu'à 30% la perte supplémentaire dans les 30 prochaines années. Mmh. En gros, on va faire disparaître un arbre sur deux. Et là, il y aura peu de chance à la régénération, c'est certain.
Alors les menaces pèsent aussi évidemment sur les hommes qui vivent dans et avec cette forêt, nous y reviendrons. Sait-on dire, François-Michel Letourneau, à quel rythme l'Amazonie disparaît aujourd'hui? Stéphane Rostin vient de nous donner quelques chiffres, mais est-ce qu'on a des chiffres plus quotidiens pour vraiment prendre conscience en fait de ce recul de la forêt?
Il y a un suivi assez précis de la déforestation qui est faite au Brésil notamment. Donc au Brésil, on est sur une trajectoire d'environ 6000 km² par an en ce moment. Alors c'est beaucoup, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît chaque année. C'est moins que ça l'a été notamment au début des années 2000 où on était à quatre fois cette surface. Mais en fait, ce qui est extrêmement préoccupant dans cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle le point de bascule, le tipping point en anglais. C'est-à-dire que il est fort probable que l'Amazonie entretient elle-même, en quelque sorte, elle entretient son humidité, elle entretient sa biodiversité, et il y a un moment où même si on n'a pas enlevé 50% de la forêt, même peut-être qu'à 25%, on passera un point de bascule et l'écosystème ne pourra plus se maintenir, et donc il va s'effondrer. Alors il y aura toujours des arbres en Amazonie, mais ce qui fait sa spécificité comme une espèce de machine à produire de la biodiversité risque de s'enrayer, c'est ça le grand risque.
Stéphane Rostin, ça fait 30 ans maintenant que vous arpentez la région comme archéologue, à quoi constatez-vous ce grignotage inexorable de la forêt, à quoi vous le voyez?
On le voit physiquement. Déjà, il suffit de survoler la forêt de nuit et pour voir des feux qui éclatent un peu partout. C'est très impressionnant de voir la luminosité de la forêt amazonienne à cause de la déforestation sauvage. Et puis, en regardant les cartes, on voit aussi le recul de la forêt de façon souvent géométrique et donc très impressionnante. On est une espèce de marabunta de très vorace qui attaqueront cette végétation. Et évidemment, les habitants en ressentent les effets. En ce moment, on n'en parle pas, mais la Colombie est face à un gros problème de déforestation par le feu, et ça menace même des sites archéologiques. Le site archéologique de Chiribiquete, qui vient d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité, premier site archéologique d'Amazonie à être classé au patrimoine mondial de l'humanité, est menacé par l'intensité de ces feux, essentiellement pour la recherche pétrolière.
Oui, vous êtes évidemment très sensible à cette question. Alors, si l'homme a peu conscience finalement de la richesse et le caractère très précieux de l'Amazonie, il l'a encore moins pour les vestiges des populations anciennes de cette forêt.
Et on a tué, il faut savoir qu'on a tué, comme ailleurs en Amérique, 90% des habitants de l'Amazonie par nos maladies en débarquant sur le continent. Donc on a une vision très parcellaire des populations antérieures, précolombiennes, et seule l'archéologie permet de reconnaître ce passé qui est beaucoup plus glorieux qu'on pourrait le croire. On a un peu tendance toujours à comparer les populations actuelles aux populations précolombiennes. C'est-à-dire qu'on calque la vision ethnologique sur la vision archéologique. Et c'est faux, comme on n'aurait pas idée de calquer les paysans guatémaltèques actuels sur une réalité sur les Mayas. Mmh. Et on ne va jamais comparer des paysans andins actuels aux Incas. Et ben, on ne peut pas le faire non plus pour l'Amazonie. Il y a eu des civilisations extrêmement aisés qui se sont développés le long de l'Amazone notamment, et on commence à découvrir leurs restes par l'archéologie moderne.
François-Michel Letourneau, la menace, elle est humaine évidemment. Quelles sont les activités qui mettent aujourd'hui en péril l'Amazonie?
Il y a toute une série d'activités. La grande activité, c'est l'élevage bovin. On convertit des surfaces de forêt avec une biodiversité incroyable pour faire des pâturages avec une biodiversité lamentable et pour élever des vaches principalement. Les grandes cultures comme le soja continuent d'être une menace, même si elle est un petit peu contenue par divers accords. Et après, il y a tout ce qui se passe sous la forêt, mais qui ne se voit pas forcément complètement. Donc l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière illégale, et dans l'ouest de l'Amazonie, comme Stéphane le disait, l'exploitation des hydrocarbures est aussi une menace importante, non seulement pour la déforestation qu'elle provoque, mais surtout pour toutes les pollutions annexes qui vont autour.
Quand vous parlez d'élevage et d'agriculture, notamment l'agriculture du soja, il faut peut-être préciser que ce n'est pas parce que l'Amérique latine manque de terre pour ses habitants, on parle là vraiment d'usines pour le monde, d'industrie internationale.
Ah oui, non, le soja amazonien n'est pas produit pour le Brésil, il est produit en grande partie pour la Chine, et particulièrement en ce moment où les Chinois achètent moins de soja américain, le soja amazonien vient à point. Et l'élevage amazonien, au moins au Brésil, approvisionne plus les grandes villes brésiliennes, mais du coup, il libère la viande de très bonne qualité du sud du Brésil pour l'exportation sur le marché mondial.
Alors, si nous avons souhaité faire ce décryptage sur l'Amazonie, c'est donc en raison de la tournée en Europe de Raoni, le chef des Kayapos, l'une des communautés indigènes du Brésil. Il était l'invité de l'émission C'est pas du vent sur RFI en 2010. Et déjà, il était très pessimiste, des propos traduits par le réalisateur Jean-Pierre Dutilleux qui l'accompagnait ce jour-là.
Il faudrait que les bûcherons, les entreprises minières et les entreprises d'élevage, l'agro-business, nous laissent tranquilles, respectent nos réserves. Ça, ce serait l'idéal. Malheureusement, je crois que les Blancs sont fous et ils vont en finir avec la forêt, en finir avec nous. Je ne crois pas que les choses vont s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut absolument, protéger les limites pour ne laisser personne rentrer. C'est la seule solution.
Stéphane Rostin, vous partagez le pessimisme de Raoni?
Hélas oui, si on regarde l'avancée des différents groupes agroalimentaires ou industriels en Amazonie, les territoires amérindiens reculent de plus en plus. On n'hésite pas à massacrer des villages, notamment dans l'ouest amazonien, pour s'approprier leurs terres. Il y a vraiment un vrai danger. Par exemple, sur le Tapajos, pour la première fois récemment, les Bundurucus qui devaient affronter des barrages hydroélectriques sur leur rivière. Il y en avait 32 qui étaient prévus quand même pour cette rivière et qui allaient détruire leur territoire, ont commencé à poser des bornes à leur territoire, ce qui est évidemment dans le monde amérindien quelque chose de complètement nouveau, puisque on n'a pas un territoire fixe mais un territoire évolutif. Et donc les Amérindiens sont vraiment menacés, et avec l'arrivée du nouveau président qui clairement a exprimé son désir d'en finir avec le problème entre guillemets amérindien.
Juste avant de s'arrêter justement sur la partie brésilienne de l'Amazonie, puisqu'elle représente 60% de la superficie totale de la forêt, François-Michel Letourneau, cette forêt, elle s'étale sur 9 pays. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves en matière de protection de l'environnement parmi les 9?
Ça va être difficile de faire ce genre de tri, parce que il y a déjà des législations nationales qui sont très différentes, et après il y a beaucoup de différences sur la manière de les mettre en œuvre. Donc par exemple, on pourrait dire que l'Équateur ou la Bolivie ont mis en place des principes centraux qui normalement devraient amener à la protection, mais en fait dans les faits ça ne se vérifie pas trop. Quant au Brésil, il a une législation qui, si on la regarde, est particulièrement protectrice. Tout le problème là encore, c'est la mise en place des choses ou le respect de la loi.
Alors le Brésil, donc, il y a depuis janvier, je le disais, un président climato-sceptique à sa tête, c'est Jair Bolsonaro.
Notre mission, c'est de rendre toujours plus compatible la préservation de l'environnement, de la biodiversité et le développement économique. Ils sont interdépendants et inséparables. Les secteurs qui nous critiquent ont beaucoup à apprendre de nous. Nous allons réduire le fardeau fiscal, simplifier les règles et faciliter la vie de ceux qui veulent produire et entreprendre, investir et créer des emplois. Nous travaillerons pour la stabilité macroéconomique en respectant les contrats, en privatisant et en équilibrant les comptes publics.
Michel Letourneau, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce que la politique de Jair Bolsonaro marque un tournant dans le mode d'exploitation de l'Amazonie? Un vrai risque, un vrai péril pour la forêt amazonienne, ou finalement ses prédécesseurs avaient déjà commencé à dessiner un peu le chemin?
Bon, alors effectivement, les prédécesseurs avaient déjà commencé à rétro-pédaler un petit peu sur la question environnementale. Il y a toute une série de mesures sûr, je vous passe le détail, mais on sentait bien que la vague était en train de repartir dans l'autre sens. Avec Jair Bolsonaro, ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on est plus dans le discours que dans les faits, puisqu'il n'a pas encore fait passer la moindre loi qui remette en question la législation pour le moment très protectrice du Brésil. Par contre, il a fait passer un message qui a été reçu 5/5 sur le terrain, qui a été que maintenant on pouvait y aller en quelque sorte. Donc ça s'est senti pendant la campagne électorale et ça se voit très bien avec la reprise très importante de la déforestation ces derniers temps. Donc pour le moment, on est surtout sur le message et sur un certain laisser-faire, mais il est probable que l'offensive législative vienne. Bon, le problème, c'est que c'est un président qui a beaucoup de mal avec le Congrès, donc c'est pas certain qu'il pourra faire grand-chose sur ce plan-là.
Alors, ce qui est marquant aussi dans le discours de Jair Bolsonaro, Stéphane Rostin, c'est la volonté, je cite, d'intégrer les communautés indigènes, de les sortir de leur isolement, comme si ils étaient victimes eux-mêmes de leur cadre de vie. Qu'est-ce que cela signifie pour le chef de l'État brésilien?
Je crois qu'il ne connaît pas du tout la réalité amazonienne et comme beaucoup, il fantasme sur ce milieu et pense, comme on a pensé pendant longtemps, que ce qu'il estime être bon pour les Amérindiens le sera forcément. Mais sans connaître la réalité, sans consulter les Amérindiens même ou les spécialistes, il va devant un échec cuisant. Pour lui, les Amérindiens sont une gêne. Donc il va essayer de s'en débarrasser soit en les assimilant, ce qui a été une politique qui a été pratiquée autrefois et on en a vu des effets dévastateurs, soit les faire éliminer en laissant, comme disait Jean-Michel, en laissant faire, puisqu'il veut aussi autoriser les armes, et on sait ce que ça peut donner en Amazonie, ça devient vite du Far West.
Ouais. François-Michel Letourneau, il faut peut-être rappeler que la protection des communautés indigènes est intégrée à la constitution brésilienne.
Oui, c'est là tout l'enjeu pour Jair Bolsonaro, c'est qu'il est contraint pour le moment à la fois par la Constitution et par toute la législation brésilienne. Bon, et donc ce qui est clair, c'est qu'il a le pouvoir, et ça va se réaliser, de mettre le plat, de stopper le processus de reconnaissance de nouveaux territoires amérindiens. Pour tous ceux qui ont déjà été légalisés, il est constitutionnellement obligé de les préserver, de les protéger. Toute la question va être de voir comment il va essayer de jouer avec les lignes et éventuellement même d'ailleurs de diviser les Amérindiens, ce qui va être difficile parce qu'il a montré tellement de mépris à l'endroit qu'il a sans doute épuisé les quelques cartouches qu'il avait.
Alors malheureusement, la ligne avec Tucson en Arizona se dégrade. Pour terminer, Stéphane Rostin, c'est quoi la solution? Et si l'Amazonie a une telle importance pour l'avenir de la planète, est-ce qu'elle ne doit pas devenir un patrimoine commun de l'humanité? Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur le statut à donner à cette forêt, peut-être à d'autres dans le monde, pour les protéger? Et peut-être même les protéger des politiques des pays qui se partagent le territoire.
Mais c'est un peu ça le problème, il va y avoir une résistance énorme. Bolsonaro, le premier, veut sortir de cette dépendance du Nord, où on lui donne des leçons. Selon lui, on a montré notre incompétence à gérer la forêt pendant des siècles, donc on ne va pas maintenant lui dire comment faire. Il pense savoir comment faire et il va refuser toute politique extérieure. Mmh. On l'a vu en Équateur, la même idée, quand le président Rafael Correa avait détouré un parc immense qui s'appelait le Yasuni en disant « je ne vais pas y toucher ». Et quelques années plus tard, les besoins de liquidité, enfin, dans les deux sens du terme, puisque l'ont fait ouvrir ce territoire pour aller chercher du pétrole. Mmh. Donc les solutions seraient évidemment de freiner toute cette avancée industrielle en Amazonie, mais on peut craindre que les pays ne vont pas laisser la gestion de leur territoire national par des pays étrangers.
François-Michel Letourneau et Stéphane Rostin, je vous remercie d'avoir participé à ce décryptage. Je rappelle, Stéphane Rostin, que votre exposition « Précieux poisons d'Amazonie » est à voir donc jusqu'au 1er septembre à Clisson, c'est dans l'ouest de la France. François-Michel Letourneau, vous êtes l'auteur de « À l'Amazonie » aux éditions du CNRS. Merci à toute l'équipe de décryptage. Éléonore Krenik, Laurence Sarniguet, Charles Barré, Hélène Avril étaient à la réalisation. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.